CFM 17h-17h30, votre mag du Tarn-et-Garonne avec les pépinières Ronchini à Nègrepelisse. Pépinières Ronchini, plantez le décor en Tarn-et-Garonne.
Bonjour tout le monde, salut Rémi.
Salut Aurélien, salut à tous. Le Mac du Tarn-et-Garonne s'intéresse aujourd'hui aux accidents dans le Tarn-et-Garonne. Début février, le préfet du Tarn-et-Garonne a annoncé un bilan plutôt négatif puisqu'il y a eu 28 tués sur les routes du Tarn-et-Garonne en 2015 contre 4 de moins. En 2014, vous l'aurez compris, le challenge consistera pour 2016 à faire moins qu'en 2014, enfin ce qui est le moins de tués sur les routes possibles, le moins d'accidents possibles. Et c'est le boulot, entre autres, évidemment, du coordinateur de la sécurité routière auprès du préfet, Stéphane Ricci. Bonjour Stéphane.
Bonsoir à tous.
Merci d'être là pour commenter ce bilan 2015 et puis un démarrage 2016 pas terrible aussi, hein,
non,
si j'ai bien compris.
Non, on peut pas dire, ouais. C'est pas bien ça.
C'est pas terrible, ouais. Ouais. Et pourtant, on se demande pourquoi. Alors, Léo est allé à la rencontre des Montalbanais. Bonjour Léo.
Salut.
Il leur a posé quelques questions justement sur à la fois pourquoi tant d'accidents sur les routes et puis quelles seraient aussi, pourquoi pas, les propositions qu'ils seraient en mesure d'apporter. Est-ce qu'ils sont d'accord d'ailleurs avec les nouvelles propositions qui sont faites, comme par exemple la réduction de vitesse, plus de radars sur les routes, de contrôle, plus de sévérité. Voilà, c'est un peu tout ça qu'on va aborder ensemble pendant une
certainement
demi-heure.
Certainement d'accord avec plus de sérénité, mais ouais. Ça tient à eux.
Je pense que les gens restent irresponsables, ils continuent à boire alors qu'ils conduisent. Souvent les jeunes en sortant de boîte, hein, c'est souvent ça.
Il y a sans doute des comportements qui sont là depuis toujours, parce que bon, après c'est une question de mentalité, c'est selon les nations. Donc une fois qu'on a supprimé toutes les raisons superficielles, genre état des routes, etc. Bon, après il y a les comportements individuels qui ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre.
Il n'y a pas assez de contrôle, il devrait y avoir plus de radars.
Parce que souvent ceux qui conduisent, ils ont de l'alcool dans le sang, ils ne font pas attention, ils roulent trop vite.
D'une part parce que les gens boivent de l'alcool, ensuite les gens ne respectent pas les limitations de vitesse. Ensuite, parce que les gens n'ont pas conscience du danger.
Alors, première réaction, Stéphane Ricci, sur ce que vous venez d'entendre.
La dernière réflexion me plaît bien. La dame qui dit que les gens n'ont pas conscience du danger, je crois que c'est un petit peu ça. En fait, nos usagers locaux n'ont peut-être pas la notion que le danger est là et bien là. On est dans un département où il y a beaucoup de raisons d'avoir des accidents graves. C'est ça, donc, voilà.
On revient sur les 28 morts de l'année dernière. Comment vous l'analysez dans vos services?
Alors, c'est une analyse avec tristesse, parce que ce sont toujours des drames humains, on parle de chiffres. Bon, après, il faut relativiser ça, ce sont des personnes qui décèdent. Alors après, en analyse, on a quand même beaucoup, l'année dernière, d'usagers vulnérables qui ont été victimes de ces accidents-là. Alors les usagers vulnérables, c'est quoi? Ce sont ceux qui n'ont pas de carrosserie, piétons, cyclistes, cyclomotoristes, motards. Et ils représentent pas loin de la moitié de nos grosses victimes, une grosse partie. Et la plupart du temps, ce sont pas les personnes qui étaient en faute, on va dire.
Ouais.
Même si les fautes sont un petit peu souvent partagées. Et en fait, il paye un tribut au fait que les autres usagers partagent pas tellement bien ni la route ni la rue. Ils sont un petit peu chez eux dans leur voiture, il faut pas venir les embêter.
Ouais. Et quand on entend aussi les d'autres personnes, beaucoup de personnes disent mettent ça sur le compte de l'alcool. Est-ce que l'alcool dans le décompte des accidents sur l'année 2015, c'est quelque chose qui a aussi beaucoup compté?
Alors on a 28 tués en 27 accidents, il y en a eu un où il y a eu deux tués. On en a 6 accidents mortels avec alcool. Donc bon, ça représente une part importante, mais pas majoritaire comme à une certaine période, on va dire, mais ouais. Bon, il faut quand même continuer à lutter contre ça, on va pas dire tout est gagné sur ce domaine-là.
Ça reste les jeunes qui sont majoritairement,
non. Sur l'alcool, les jeunes, non, enfin, globalement.
Non, mais ça veut dire que les actions que vous avez mis en place au sein de la préfecture sur la sécurité routière, comme les grandes campagnes SAM, les capitaines de soirée,
les jeunes les ont bien comprises.
Ça commence à marcher.
globalement bien appropriée. Alors on ne dit pas, et on n'est pas sur des problèmes de santé publique, on est bien d'accord, on ne dit pas que dans une voiture où il y a 4 jeunes, il y a 0 g d'alcool, mais celui qui conduit, généralement, il est bien dans les clous de la réglementation. Ses copains, non, mais c'est le but de... on est bien dans ce qu'on recherche, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Globalement, hein, parce qu'on a bien entendu quelques écarts là-dessus, nos problématiques sont plus en termes d'alcool sur des gens qui ont un âge un petit peu plus avancé, on va dire, qui font de l'alcool festif dans des milieux familiaux ou des fêtes à droite à gauche, mais pas forcément les boîtes de nuit.
Pas forcément les boîtes de nuit. Ça peut être le dimanche en rentrant du repas de famille, quoi.
Voilà, ou en sortant du stade, puisqu'il y a beaucoup de buvettes dans les stades. Faut arrêter de...
Les clubhouse, c'est des véritables petits bars aujourd'hui.
Même des gros bars.
Qui ne font pas que tuer les bistrots des petits villages, mais qui tuent aussi les joueurs sur les routes, du coup.
On a beaucoup travaillé avec les patrons, avec l'UMI, et puis les patrons de boîtes de nuit, les bars, et bon, eux, ils expliquent qu'il n'y a pas qu'eux qui délivrent de l'alcool, quoi, dans ce département. Il ne faut pas... faut arrêter de cibler.
On voit aussi souvent des contrôles les vendredis après le repas de midi. C'est très très souvent que moi j'ai une petite camionnette blanche par exemple, ça fait très artisan et là généralement si je me balade sur le coup des 14h30 15h, j'ai droit à souffler dans le ballon. C'est aussi un moment tendu.
Les forces de l'ordre, enfin tout le monde, tout ce qui est en charge de la politique publique de sécurité routière s'adapte aux pratiques de la société. On a bien noté que dans certains domaines d'activité, l'artisanat, enfin, toutes ces choses-là, il y avait des pratiques, effectivement, à midi, sur des apéros peut-être un peu corsés, voire des repas un petit peu trop arrosés. Donc, effectivement, c'est normal qu'on contrôle tout le monde et pas que les jeunes qui sortent en boîte de nuit, etc. Leurs parents aussi peuvent être contrôlés.
Alors, le contrôle, ça fait partie des solutions à apporter hein, pour tenter de réduire le nombre d'accidents et le nombre de morts sur les routes. Les Montalbanais ont des solutions, Léo ?
Et oui, donc j'ai été dans les rues de Montauban justement à leur demander quelles solutions on pouvait apporter à tous ces problèmes de mortalité sur la route.
Pour moi, c'est pas baisser la vitesse, c'est d'apprendre à collaborer dès l'école et pas être en concurrence, de regarder les autres et de faire attention aux autres au quotidien, mais pas que sur la route, le reste du temps aussi.
Sincèrement, j'en sais rien. C'est une question de conscience de chacun.
Plus de contrôle, plus de radars pour que les gens aient peur qu'on s'attaque à leur portefeuille en quelque sorte.
Parce qu'il y a du laxisme par rapport aux réglementations. Bon, si on est le tout répressif, je pense pas que ça marche non plus. Je ne sais pas.
Peut-être augmenter le contrôle ou faire des genres de... pas des réunions, mais dans le même style pour dire aux gens justement, les rappeler qu'il faut pas rouler trop vite. Tout ça.
Des réunions.
Ah oui, mais ça en fait beaucoup. Enfin, mais oui, c'est très bien ce que disent des usagers interviewés comme ça dans la rue. On fait tout ça, bien entendu. Enfin, on n'est pas tout seul à faire tout ça, mais on intervient beaucoup dès l'école, même primaire, dans les collèges, les lycées, dans le milieu du travail. On rappelle toutes ces choses-là que ce qui tue, c'est pas. Quand il y a un problème avec une voiture, ce qui tue, c'est pas l'alcool. L'alcool, ça tue en termes de santé publique sur le long terme. C'est la vitesse au moment du choc. Donc, voilà, effectivement, il faut que on arrive à faire intégrer à nos usagers locaux que il y a une vitesse maximale et qu'il faut la respecter. Et donc, on déploie beaucoup de radars. On déploie beaucoup de temps à expliquer, à faire de la prévention. Dès le plus jeune âge que, effectivement, comme disait la première dame là, qui intervenait, la route, ça se partage, c'est plus... c'est le seul endroit où on se retrouve tous, quoi. Toute la société se retrouve sur la route ou dans la rue. C'est le seul endroit où on se retrouve tous à un certain moment. Et c'est aussi l'endroit où on voit les dérives comportementales. C'est bien le...
C'est le reflet de la société, finalement.
Donc voilà, c'est vrai qu'un peu d'agressivité, un peu de violence, ou beaucoup de violence, ou beaucoup d'agressivité, et tout de suite, ça donne, malheureusement, des conséquences corporelles graves, surtout pour les usagers les plus vulnérables. Mais c'est pour ça qu'on continuera allègrement à multiplier les zones de contrôle avec des radars, etc. Pas de pitié.
Petit peu de pub et puis on revient sans pitié avec Stéphane Ricci, coordinateur de la sécurité routière auprès du préfet du Tarn-et-Garonne.
CFM à Moissac, 90.7. 90.7.
Dans le cadre de sa saison culturelle, la ville de Moissac vous propose des spectacles incroyables pour le mois de mars. De la musique avec Raoul Paz le 11 mars, en partenariat avec le Rio, du cirque avec la compagnie Yeto le 18 mars, de la chanson avec Aldebert le 20 mars et Dominica le 26 mars, en partenariat avec CFM Radio et le Rio. Tout un programme pour un mois de mars riche en culture. Passez d'agréables moments de détente pendant la saison culturelle de Moissac. Infos et renseignements sur moissac-culture.fr.
Rendez-vous rugby à Montauban vendredi 4 mars à 19h30. L'US Montauban accueille Aix-en-Provence. Un match que l'on ne peut gagner qu'ensemble. Plus que jamais, ils ont besoin de votre soutien. L'USM face à Provence Rugby, c'est vendredi 4 à 19h30 à Sapiac. Dès maintenant, réservez vos places et retrouvez l'actu du club sur www.usmsapiac.fr.
Gagnez vos places sur CFM Radio en appelant le 05 63 930 020 le soir dans l'émission À qui le tour.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2.
Alors, on le dit depuis le début de cette émission, on parle beaucoup de l'alcool au volant. Léo, retourne dans la rue, on retourne dans les rues montalbanaises sur ce sujet-là.
Et c'est ça parce que bon, on a vu quand même aussi que sont notamment les jeunes qui sont touchés. C'est l'alcool, c'est une des premières causes de mortalité sur la route. Et un quart des tués ont entre 18 et 24 ans. Alors on a mis en place des mesures. Par exemple, maintenant pour les jeunes, le taux d'alcool dans le sang c'est 0,2 grammes par litre de sang. Et 0,2 grammes, c'est 0 verre d'alcool, parce que dès le premier verre, ce seuil peut être dépassé. Et on a donc demandé aux Montalbanais ce qu'ils en pensaient.
J'en pense que c'est une bonne chose. Hein. C'est boire ou conduire, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé.
Ouais, je pense que c'est une bonne idée.
Parce que les jeunes ont tendance à abuser.
Je pense aussi qu'il faut traiter les jeunes comme les vieux. Il n'y a pas de raison que les jeunes soient plus pénalisés que les autres. Un verre d'alcool, ça doit faire 0,2-0,3 grammes. Et là, ça convient pour être quand même maître de ses réflexes.
Oui, ben, le moins d'alcool possible, de toute façon. Et quand on sait que c'est... Bon, souvent, il semblerait que ce soit les jeunes qui aient tendance à abuser dans certaines soirées. Bon, il y a des moments où, effectivement, ils sont accidentogènes.
Je pense que c'est tout à fait correct, que c'est normal. Parce qu'on ne doit pas conduire en ayant un taux d'alcool dans le sang.
Ah, les jeunes sont discriminés quand même, je trouve.
Non. Non. C'est autre question. En fait, 0,2 g, effectivement, c'est pas pour les jeunes, c'est pour les nouveaux permis. Et c'est pas parce qu'on est jeune, c'est parce qu'on a un nouveau permis. C'est qu'on n'a pas l'habitude de conduire.
On vient d'avoir son permis.
On vient d'avoir ou de re-avoir son permis. C'est-à-dire, si moi, à mon âge canonique, je repasse le permis, j'aurai 0,2 pendant la période.
D'accord.
Qui suivra l'obtention de mon permis si je l'ai perdu pour X raisons. Ce ne sont pas les jeunes qui sont ciblés. Il faut bien le dire, ce sont les jeunes permis. Parce que les jeunes permis n'ont pas une capacité à réagir, à se connaître suffisamment pour appréhender la conduite sous effet de l'alcool. Et vous avez bien fait de dire, 0,2, c'est 0 en fait. Il faut savoir qu'il y a certains médicaments... des sirops pour la toux qui contiennent un peu d'alcool et qui suffiraient à faire bouger
le curseur,
mauvais sens, le curseur. Ouais. Donc en fait, quand on dit 0,2, il faut dire 0. Quoi. Un verre, ça dépasse tout de suite 0,2.
Je reviens juste sur quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais qui était abordé dans le tout premier micro-trottoir. C'était l'état des routes. Comment se porte l'état des routes dans le département du Tarn-et-Garonne? Alors, et est-ce qu'il est accidentogène, cet état des routes?
Alors, globalement, l'État n'est pas gestionnaire de réseau routier. On n'a plus de route nationale, mais je connais bien le réseau routier qui est géré soit par Vinci Autoroutes pour le réseau autoroutier, soit Conseil départemental, les routes départementales et puis les voies communales. En Tarn-et-Garonne, il y a 10 000 km de routes revêtues, à peu près. Mais si on met tous les linéaires bout à bout, ça fait 10 000 km. Globalement, c'est bon. Il y a des gens qui savent faire des politiques d'entretien, d'exploitation et qui font que les routes sont en bon état pour l'usage qu'elles doivent faire. La difficulté, c'est de prioriser quand on est gestionnaire de réseau, c'est de dire... parce qu'à la limite, en Tarn-et-Garonne, pour aller d'un point à un autre, on a trois possibilités, on va dire. On peut aller de Casemont-Denard à Lozerte par trois routes différentes. Et peut-être que si on veut que les gens utilisent la route la plus sûre, il faut donner le meilleur niveau de service à une seule. Et dégrader le réseau très secondaire pour que les gens n'y circulent pas à des vitesses trop élevées. Voilà. Ça peut être ça une des solutions pour avoir un réseau de 10 000 km cohérent.
C'est-à-dire, il faudrait dégrader l'état de nos routes, il faudrait qu'il y ait des nids de poules.
Il y a peut-être des endroits où certaines voies sont trop confortables pour l'usage qu'elles doivent donner. C'est-à-dire que pour rentrer chez soi, ben, s'il y a peut-être un nid de poules, c'est pas bien grave. Si on roule à 40 à l'heure sur une voirie communale, c'est pas bien grave. C'est fait pour ça, d'ailleurs. C'est pas fait pour rouler à 90.
Mais c'est pour ça que dans certaines petites agglomérations qu'on traverse de plus en plus, soit on met des gendarmes couchés,
on met des chicanes, des
choses comme ça qui permettent de dévier et qui obligent finalement à ralentir. Quoi.
Finalement, on dégrade le service à l'usager parce que sinon on a trop de vitesse dessus.
Ouais, justement, on va en parler de la vitesse, Léo.
Excusez-moi. Donc oui, la vitesse est un facteur accidentel important. 25% des Français déclarent ne pas respecter les limites de vitesse. Alors il y a une mesure qui a fait un peu polémique, mais qui a été adoptée dans plusieurs villes françaises, à Grenoble par exemple. Et c'est abaisser la limite de vitesse à 30 km/h en ville. Et les avis sont un peu partagés.
Je suis tout à fait contre, parce que rouler à 30 km/h, c'est très dangereux. À 50, c'est très bien. En dessous, il vaut mieux prendre un vélo.
Centre-ville, oui, je pense que c'est raisonnable et peut-être qu'il le faut aussi. Oui. De toute façon, en ville, on peut pas rouler vite dans tous les cas.
Il le faut, ils roulent trop vite, les gens. Ils roulent extrêmement vite et puis ils font pas attention. Ça leur permettrait d'avoir peut-être plus facilement des PV, donc plus facilement de la compréhension de rouler moins vite.
Pour moi, 50, c'est correct. 30, alors, ça va faire des bouchons, ça va augmenter la pollution.
Peut-être dans l'hypercentre, mais... Ensuite, sur les boulevards, non. Et puis la nuit, c'est pas très sécurisant de rouler à 30 à l'heure. Quand j'ai une réunion la nuit, moi j'ai la trouille, je m'enferme dans la voiture. Il me tarde de rentrer chez moi, hein, je vous assure.
Et voilà.
Voilà. Alors. 30 km/h, c'est inégatable, on va y venir.
30 km/h, ça pète très vite. On est à Montauban, là, si on se circule dans le centre, l'hypercentre de Montauban à 30 km/h...
Place nationale, c'est compliqué.
Ça pète vite. 50, ça peut être pas très vite. En fait, il faut pas prendre les usagers pour ceux qui sont pas. Ils sont pas idiots. Il faut leur donner une limitation de vitesse qui soit cohérente avec l'environnement. Le code de la route, enfin pour nous, enfin pour les services de l'État, c'est pas compliqué. On parle pas des autoroutes, puisqu'on est sur 30 ou 50 en ville, on parle pas d'autoroutes. C'est 90 à la campagne, 50 en ville. Tout le reste, ce sont des décisions des collectivités locales qui disent que l'agglomération commence ici, à cet endroit, et c'est la prérogative du maire, et donc à partir de là, c'est 50, et puis après, il peut abaisser la vitesse s'il juge que ça met en danger ses écoliers devant l'école, etc. Mais ça se décrète pas. Il faut que l'aménagement routier soit cohérent avec ça et que l'usager le comprenne. Si vous mettez un panneau 50, une entrée de ville 50 au milieu des champs, personne ne va la respecter. J'arrête pas de faire le tour du département pour expliquer ça aux décideurs. Quoi. On ne décrète pas.
Cette fond sur cette grande voie qui la traverse de part en part, 30 km/h, c'est une bonne chose par exemple ou pas?
Ça peut paraître inadapté sur certains secteurs de la traversée de cette fond.
Ouais.
Moi, j'ai vu des localités qui s'appelaient Bois Grand, du côté de Nègrepelisse, où il y avait que des champs d'un côté. Enfin, je veux dire, et donc 50 à l'heure, on peut pas dire à l'usager, vous êtes en ville, alors qu'il n'y a pas de ville. Donc, ça se décrète pas. Il faut mettre en corrélation un aménagement routier avec un environnement paysager perçu par l'usager de façon cohérente, et la vitesse s'abaissera d'elle-même.
Est-ce que les aménagements sont faits aussi en fonction des lieux, s'ils sont accidentogènes ou pas, un virage dangereux, donc, ou une grande ligne droite très rapide, les endroits où on va comptabiliser 3, 4, 5 accidents sur une année, est-ce que du coup on prend la décision de faire des choses?
Alors il y en a plus normalement des endroits comme ça, c'est-à-dire que ce qu'on appelait dans le temps des points noirs, on appelait ça des points noirs de la route, ça n'existe plus. C'était des zones où il y avait des accumulations d'accidents anormales, et donc effectivement les réseaux routiers ont été entretenus, mis à niveau par les différents gestionnaires, et on n'a plus de points difficiles, mais on n'a plus de points statistiquement difficiles, mais il y a toujours des améliorations à apporter. Et surtout dans ce département où on est un des trois premiers départements de France, où la mortalité par rapport à la population est la plus élevée. si tout le monde faisait comme nous, il y aurait 8000 morts en France. Faut pas, si on ramène ça à la population, hein, donc il y a quand même toujours des choses à faire sur l'infrastructure, ne serait-ce que si on est en Tarn-et-Garonne, protéger les obstacles. Et les obstacles, ce sont pas que les arbres. On a une politique d'urbanisation qui a été menée depuis des années, qui fait qu'on a des accès privés le long des voies. On a su construire que le long des voies structurantes, et donc on a multiplié des accès privés qui, au-delà du fait que les gens doivent accéder et font des manœuvres un petit peu dangereuses, quand ils font pas la manœuvre, il y a toujours un ponceau en béton bien solide où quelqu'un va aller s'encastrer.
Oui.
Donc voilà, on a une multiplicité d'obstacles latéraux qu'il faut protéger, qu'il faut essayer d'améliorer. Mais globalement, le réseau routier est en bon état, et en tous les cas, il est audité, entre guillemets, de façon...
régulière.
Sérieuse et régulière, là.
Alors, revenons à l'automobiliste, parce que c'est sa faute, finalement, s'il a un accident, s'il meurt, ou s'il tue quelqu'un, ou s'il finit handicapé, c'est peut-être aussi parce qu'il est tout simplement en train de passer un coup de fil.
Je pense que tout ça, c'est des petits problèmes d'un problème bien plus grand, qui est le manque de collaboration entre les gens. Donc je pense qu'on devrait responsabiliser les gens plutôt que de les infantiliser avec des lois débiles.
Je pense que c'est un problème pour les professionnels, par contre. Ceux qui livrent tout ça et ont besoin d'être en lien sans arrêt avec leur patron, je pense que c'est un problème, ça, par contre.
Maintenant, les voitures, elles ont un système de Bluetooth, où on peut discuter directement.
Moi, j'en pense que c'est bien. On n'a pas besoin d'avoir une oreillette pour conduire.
Alors, oreillette, pas oreillette, parce qu'en fait, on n'a plus le droit d'avoir une oreillette.
On n'a plus le droit. On n'a plus le droit d'avoir une oreillette, ni dans le casque, ni dans sa voiture. En fait, c'est tout. On essaie de gommer du comportement de l'usager tout ce qui peut perturber son attention.
Mais comme le dirait une présidente d'association des usagers de la route en colère, je sais plus comment c'est, je crois que c'est les conducteurs en colère ou quelque chose comme ça qu'on a eu au téléphone il y a pas très très longtemps. Ça n'a pas l'impression qu'on en fait un peu trop aussi des fois, parce que c'est un peu en dépit du bon sens, parce que finalement on a tous maintenant par exemple un GPS sur lequel on a le droit d'aller tapoter, qu'on va pouvoir regarder si c'est bien la bonne flèche. Des fois on regarde que la flèche, on oublie de regarder la route, et puis on peut pas téléphoner avec une petite oreillette ou manger un sandwich ou des choses comme ça.
Mais la politique publique s'adapte toujours à la réalité des chiffres. Quand on voit le bilan qu'on a et quand les opérateurs mobiles sont saisis suite à un accident pour savoir s'il y a eu des coups de fil juste avant pour essayer de comprendre des fois comment quelqu'un a pu perdre le contrôle de son véhicule. Donc on a des retours là-dessus, et on sait très bien qu'il faut arriver à faire comprendre aux usagers qu'on peut pas faire deux choses à la fois, et que, puisque vous parliez du GPS tout à l'heure, on sait que le meilleur GPS, c'est le GPS vocal. C'est pas celui qui s'affiche sur une carte, ou qu'il faut regarder. Le meilleur GPS, c'est celui qui parle au conducteur et qui lui dit à la prochaine, il faut tourner à droite, et puis il est pas attiré vers un écran. Tout ça, ça fait partie des mesures qui seront prises dans le futur, qui rendront le véhicule encore plus intelligent, et donc son conducteur aussi, on va dire. On va l'espérer en tous les cas. Et ça fait partie de toutes les adaptations que la technologie et les rythmes d'évolution de la technologie permettront, en attendant et au vu des résultats obtenus. Le téléphone en conduisant, les SMS, les écrans, il faut oublier, quoi. Donc on est obligé, effectivement, même si ça peut paraître des fois un petit peu difficile, mais parmi vos auditeurs là qui nous écoutent, ils ont bien tous vu tout un tas de gens zigzaguer en voiture à 30 à l'heure, et ils avaient le téléphone bien collé à l'oreille, quoi. Enfin, on l'observe tout le temps, ça, à longueur de journée. Il faut que ça s'arrête, parce que ça génère quand même une certaine insécurité routière avérée.
Et on vous dit donc de plus en plus après un accident, oui, c'est parce que je regardais mon téléphone, pas parce qu'un téléphone, juste le regarder, comme disaient toutes les applications, les GPS. Enfin, moi, personnellement, je sais que je ne le fais plus parce que je regarde plus mon téléphone que la route, et ça ne me plaît pas du tout.
Le nombre de textos aussi.
Ça fait partie dans les auditions, alors on va pas rentrer dans le secret des auditions, mais effectivement, ce sont des choses qui remontent, et quand il n'y a pas, ou quand il n'y a plus de survivants pour pouvoir dire, eh bien, après, on saisit l'opérateur de téléphonie, on demande sur tel mobile qu'est-ce qui s'est passé à telle heure, et on sait qu'effectivement il y a des choses qui se sont passées. Donc on a un historique, on voit bien, mais au-delà de ça, enfin, je veux dire, nos chers auditeurs là, ils doivent bien le voir quand ils suivent un véhicule qui commence à zigzaguer. Bon, voilà, c'est pas l'alcool, là, c'est une autre distraction.
Ouais.
Il y a plein de motifs de distraction.
Et puis, il n'y a pas que l'alcool, il y a aussi la fumette. Parce que ça, c'est nouveau maintenant. On peut se faire contrôler n'importe quand, comme quand on se fait contrôler pour l'alcoolémie. De la même manière, aujourd'hui, on peut faire du testing pour voir si on a fumé un pédo.
Effectivement, il y a des contrôles à faire, que ce soit sur l'alcoolémie ou les drogues. Voilà, ça se fait, hein, de toute façon. Maintenant, est-ce qu'il faut l'amplifier ? Je ne sais pas.
Oui, là, je suis pour. Parce que c'est quand même à la sécurité des uns et des autres.
Je suis totalement contre. C'est une forme d'imposition indirecte qui est très efficace pour racketter la population.
Stupéfiant, tout à fait d'accord. On ne doit pas fumer, on ne doit pas boire quand on conduit. Stupéfiant, on le voit quand on fait des analyses 8 jours, 15 jours après. Hein. Donc, il y a des répercussions. Hein.
Alors ça fait partie des nouvelles mesures, Stéphane Richer.
Oui, ça fait partie des nouvelles mesures pour des nouveaux comportements. On voit bien que, alors, c'est vrai que contrairement, enfin, à la différence de l'alcool, c'est une seule molécule qu'on recherche. C'est pas compliqué de faire des tests et de rechercher une molécule de l'alcool. Quand on est sur les stupes, on recherche tout un tas de molécules on ne trouve que celle qu'on cherche. Soyons clairs là-dessus. Tétrahydrocannabinol, le cannabis, amphétamine, THC. Mais la molécule qu'on a inventée dans son petit laboratoire de chimiste à partir d'un médicament, ce sont nos amis d'épices qui m'expliquent tout ça. Ça, si on ne la recherche pas, on ne la trouvera pas.
Mmh. Et le contrôle sur les stupéfiants se fait de la même manière que pour l'alcoolémie ou faut que, pour contrôler les stupéfiants, il faut qu'il y ait eu une infraction auparavant?
Alors, contrôle de stupéfiants, maintenant, c'est possible par un officier de police judiciaire de sa propre initiative, comme un contrôle alcoolémie, sans demande préalable du procureur de la République, au moyen d'un test salivaire. Donc, effectivement, on peut, de sa propre initiative, de leur propre initiative, les forces de l'ordre peuvent faire la recherche de stupéfiants. Mais, comment dire, ce sont des professionnels, nos amis des forces de l'ordre. Je veux dire, ils ne vont pas taper tellement au hasard. Il y a des signes extérieurs sans l'analyse qui font que on sait qu'on ne va pas trop se tromper.
Et ça, c'est pas un délit
de faciès
et de mauvaise gueule, ça.
Toi, avec tes locks, oui, le test salivaire, toi, tu vas voir, mon gars. Alors non, Léo, regarde, avec sa coupe de footballeur, lui.
Voilà. Voilà. Non, mais après, de toute façon, si le test est négatif, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, c'est juste la positivité des tests. Bon, après, ça a un certain coût, des tests de recherche stupéfiants. On arrivera très certainement. Au-delà de ça, sur les stupes, sur le volet stupéfiant, substance particulière comme celle-ci, ce qu'il faut rappeler aux gens, au-delà du fait que c'est pas bien connu après en avoir ingéré, c'est qu'après ça fait quand même des dégâts autrement plus d'ampleur sur le cerveau et des fois dès la première prise. C'est assez surprenant, pour pas dire stupéfiant, mais quand on lit toutes les enquêtes publiées par l'INPES et tous les retours d'expérience qu'il y a, c'est sont des choses à manipuler avec quand même beaucoup de précautions, en tous les cas à éviter, on va dire.
Merci Stéphane Richy, coordinateur sécurité routière pour le Tarn-et-Garonne. J'espère que la prochaine fois que je vous inviterai à ce micro, les chiffres seront meilleurs.
Ça n'est jamais arrivé.
Si, il me semble que...
C'est arrivé une fois.
C'est arrivé une fois, peut-être c'était en 2014, que les chiffres n'avaient pas été trop mauvais, non?
En 2014, ça n'avait pas été trop mauvais. Mais de toute façon, 24 ou 28 morts, c'est 24 ou 28 de trop. Ouais. On arrivera difficilement à un zéro, mais c'est vrai que si on était en cohérence avec les objectifs qui nous sont fixés et la contribution du Tarn-et-Garonne, ça devrait se limiter à une douzaine.
D'accord.
Voilà.
Merci Stéphane Richy d'avoir accepté de passer dans cette émission encore une fois. Merci Léo pour les reportages.
C'était le MAG du Tarn-et-Garonne avec les pépinières Ronchini à Nègrepelisse. Pépinières Ronchini, une équipe à votre écoute.
Et pardon pour le retard, on va se retrouver pour votre magazine régional dans deux petites minutes, juste après les infos. CFM, il est 17h31.
CFM.